Bonjour Jean-François Frogier.
Bonjour Père Éric.
Nous nous retrouvons donc pour poursuivre notre quatrième étape de cette découverte du récit de la création dans le livre de la Genèse. Notre émission précédente nous a permis de... Vous nous avez éclairé pour mieux comprendre ce premier verset qui nous décrit quatre éléments d'une structure de la création. Alors je crois que le plus simple, c'est que nos auditeurs réécoutent cette émission. Simplement, je dirais qu'il y a de l'ordre et du non-ordre, et puis du ni ordre ni non-ordre.
Voilà. Bon,
peut-être vous reprendrez ces expressions dans cette émission. Ce qui m'intéresserait peut-être, pour reprendre aussi ce que nous disions dans la troisième émission, l'émission précédente, donc on sait que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Ça veut donc dire qu'il y a un mélange, puisque Dieu sépare. Mais, alors, qu'est-ce que cette séparation permet, puisque vous nous décrivez une structure de la connaissance? Alors, qu'est-ce que cela nous permet au niveau de notre connaissance, puis peut-être aussi au niveau de notre temporalité?
Oui. Alors, effectivement, nous avons ce premier acte divin, en quelque sorte, après la parole, que soit la lumière, et la divinité sépara entre la lumière et les ténèbres. Donc, comme vous le faites remarquer, on ne peut pas séparer deux choses qui ne soient pas mélangées. Donc, il faut donc concevoir la lumière et les ténèbres mélangées, ce qui nous est très difficile. Parce que ça n'est pas immédiat. Et pour nous, quand il y a de la lumière, ben, il n'y a pas de ténèbres. Voilà, il n'y a pas de... Donc, comme on a appelé la lumière jour et la ténèbre nuit, il faut se servir de l'image qui est permise par cette transposition, par cette traduction, en quelque sorte. Et aller voir, justement, la lumière du jour et la ténèbre de la nuit, en quelque sorte. Il se trouve que il y a des moments de séparation qui vont pouvoir figurer physiquement, en quelque sorte, sensiblement, cet acte divin. Comme c'est un acte divin, ça doit être quelque chose d'intelligible, ça doit être quelque chose, mais nous y allons pas à pas. Donc, les deux moments de la journée où il y a un mélange lumière-ténèbres, c'est le soir et le matin. Donc il faut regarder un peu plus ce soir et ce matin. Et pourquoi justement, parce qu'on aurait pu nous dire, ben, il y a eu une nuit, il y a eu un jour, jour unique. Hein? Bon, il y a l'amphibologie du mot jour, mais ça serait la même en hébreu d'ailleurs avec yom. Bon. Mais soir et matin, donc ce sont des moments précis. Alors allons voir ces moments. Il se trouve que en hébreu, parce que c'est la langue de ce récit, le soir, ça se dit « erev ». Et « erev », il y a un verbe qui est lié à ce substantif. Ça veut dire « mêler », « mélanger », « échanger », ou « se mettre à la place de quelqu'un ». Donc, on échange l'un par rapport à l'autre, donc c'est comme si c'était pas trop distinct. Hein, si vous portez garant de quelqu'un, c'est comme si vous étiez quelqu'un. Et le verbe arav, c'est aussi se porter garant. Voyez? Donc, le mélange de deux choses qui, en principe, sont séparées, mais peuvent être réunies. Alors, évidemment, il y a un oiseau qui a la couleur du soir, c'est le corbeau, et le corbeau, ça veut dire orev. C'est très intéressant. Hein? Parce que le corbeau, on va voir, c'est un oiseau qui va servir à la révélation dans le récit du déluge. Il y a un corbeau et une colombe. Bon, il y aura le noir et le blanc. Bon, ça sera bien.
C'est un corbeau aussi qui nourrit Élie au désert.
C'est un corbeau, oui. Alors, évidemment, il faut avoir en arrière-fond, pour comprendre les récits qui suivent, cette affaire sur le soir. Mm-hmm. Hein? Bon. Et puis, il y a d'autres mots qui sont du même type, comme « erev ». Vous voyez, c'est la vocalisation qui change un petit peu, qui veut dire la trame d'un tissu, ou même quelque chose de doux. Quelque chose de doux, en général, c'est un mélange. De l'eau qui est tiède, c'est un mélange d'eau chaude et d'eau froide, c'est doux au toucher en tout cas.
La bon. Trame d'un tissu, c'est-à-dire le mélange des fibres.
Ah, c'est le mélange des fils, oui, bien sûr. Hein? Voilà. Et donc, Erev, le mot lui-même signifie mélange. Et de l'autre côté, le matin, ça se dit boker en hébreu, mais il y a un verbe qui va avec, qui veut dire distinguer, bakar. Ah bon? C'est donc l'inverse. Mais c'est dans le rond du jour, c'est aux antipodes justement. Ah oui, mais ça se répond.
Donc vous voulez nous dire que finalement le soir nous conduit vers une obscurité totale et que le matin plutôt vers une clarté naissante?
Voilà, une clarté montante, levante. Mmh. Le soleil se lève et il va monter haut à l'horizon. Bon. Et donc c'est quelque chose, comme vous le sentez, qui est dynamique. Le soir, c'est ce qui va vers sa fin, et le matin, c'est la même chose. C'est quelque chose qui va vers le soir. Donc, nous, dans notre mentalité actuelle, le soir et le matin, c'est des moments précis. Non, là, ce sont des moments dynamiques, où quelque chose se termine, où quelque chose commence. Donc, le soir, on va être dans le mélange, vers la nuit profonde. Et le matin, dans la distinction, plein jour. Parce que le jour, on va voir les choses distinctes. Et du coup, par exemple, on va garder les troupeaux, bakar. Et bakar, ça va vouloir dire le bœuf aussi. Alors, quand on aura un bœuf quelque part dans la crèche, il faut se souvenir de ça. C'est qu'il y a de la distinction dans l'air. Hein? Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous vivons cycliquement des événements sensibles qu'il faut regarder comme la révélation de ce que c'est que la séparation du jour et de la nuit. Et c'est qui nous fait vivre alors la séparation de la lumière et des ténèbres. Mais cette séparation, elle recommence tous les jours. Donc c'est un acte perpétuel. Et un acte perpétuel, ça veut dire il n'est pas temporel. Ce qui est temporel, c'est ce qui va pouvoir être noté à un moment d'un jour qui ne revient pas. La naissance de quelqu'un, c'est tel jour, dans telle année, tel moment, puis ça ne revient pas. Donc c'est datable. Mais une chose qui revient tout le temps, elle n'est pas datable, elle est là. Donc ça nous signifie que la séparation lumière-ténèbre, qui est un acte divin, est un acte permanent pour nous, dont nous pouvons avoir une certaine notion à travers des images qui sont cycliques, qui recommencent tous les jours.
Ça veut dire que nous sommes appelés, ou en tout cas inspirés, de manière à ce que nous sortions d'un mélange.
Voilà. Voilà. Le mélange nous est nécessaire, mais il faut en sortir. Il faut y retourner.
Ah, est-ce que c'est en rapport avec ce Tohu Vabohu?
Bien sûr. C'est-à-dire que nous sommes dans un mélange, ordre et non-ordre, mais nous avons la possibilité soit d'augmenter l'ordre vers un ordre presque absolu, c'est-à-dire le plein soleil, la connaissance quasi parfaite, soit de retourner dans la nuit, où là, il n'y a que les rêves, c'est comme dans les eaux, d'ailleurs, les eaux sont connotées de nuit et de rêve, hein, comme l'ont très bien vu les philosophes, mais cet état est nécessaire pour que la lumière se resépare. Donc ce sont des actes qui nous sont absolument nécessaires à vivre. Qu'est-ce que c'est que d'entrer dans la distinction? Mais nous ne pouvons pas être dans une distinction permanente. Nous devons retourner de temps en temps au sommeil. D'accord. Il y a l'éveil et le sommeil. Un éveil parfait, c'est pas pour cette terre. Ça viendra peut-être après, dans la vie divine. Mais nous, on a besoin de ce rythme. Ça, c'est vrai, même psychologiquement, et c'est vrai spirituellement. Mais ça veut dire encore autre chose. C'est, vous l'avez remarqué, on l'a dit souvent, le refrain qui va scander les jours, où il va, et à chaque jour, on va ajouter une note pour arriver à fabriquer de l'homme. Mais il ne faut pas oublier que c'est cumulatif. C'est-à-dire que c'est sur ce fond de distinction et d'indistinction que tout le reste va avoir lieu. Il ne faut pas oublier le premier jour quand on arrive au second. Il est constitutif, c'est un acte divin qui constitue la nature humaine. C'est la capacité à la distinction, au contraste, ce qui est la condition sine qua non pour que nous connaissions quelque chose.
Que la conscience émerge.
Que la conscience émerge. Que la connaissance émerge. C'est le contraste qui permet la connaissance, conscience.
Le contraste, c'est ce qui nous permet de voir les formes, déjà simplement, dans la, autour de nous. Il nous faut
qui nous permet de sentir, voilà, qui nous permet de sentir, de ressentir, et qui nous permet de penser. Sans contraste, c'est impossible. Donc, une chose qui serait sans contraste est absolument inconnaissable. Bon.
C'est intéressant parce que cela veut dire que après chacune des créations de Dieu, il faut entrer presque dans ce soir, ou vivre, puisque vous nous dites que c'est une dynamique, il faut vivre cette nuit, ce soir, et aussi ce matin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui serait, un choix possible. Il faut entrer dans cette dynamique du soir et du matin.
Tout à fait. On ne peut pas faire autre chose que de vivre des jours successifs, c'est-à-dire des soirs, des matins, indéfiniment, jusqu'à notre mort.
Alors ce serait intéressant que vous nous disiez, mais peut-être que vous le développerez plus tard, mais que signifie donc ce soir, cette nuit, en quelque sorte, dans laquelle l'homme entre et se réveille du matin, qui, vous le dites, ne sera jamais complètement achevé ici-bas, mais dans lequel nous sommes aussi invités à entrer.
Bien sûr. Alors, la question se pose, c'est pourquoi le récit dit « il y eut un soir, il y eut un matin, jour unique ». Donc, tout commence le soir. Ah bon ? Parce que nous, d'instinct, dans notre culture, nous aimons bien commencer les jours par le matin. Bon, officiellement, ça commence à minuit, mais il n'y a pas beaucoup de monde levé à minuit. Et c'est uniquement pour une raison de commodité des horaires de chemin de fer ou d'avion. Hein. Parce que pour nous, le jour, il commence vraiment le matin, dans notre culture.
C'est le réveil.
Parce qu'on s'éveille, et parce que là, on devient maître de nos actes, parce que la nuit, en gros, ce qui se passe en nous, on n'en sait rien. On s'en souvient même plus, souvent. Il s'est passé un tas de choses dans notre esprit. Et puis, on fait rien. Alors, là où l'homme et possesseur et maître de lui-même, ça commence à être le matin. Sauf quand on est malade, etc. Mais enfin bon, habituellement, on va au travail. Bon, on va transformer le monde. Ça, c'est notre projet. Ça, c'est l'homme qui n'est pas entièrement mauvais, mais qui est quand même déchu. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprend pas, il ne se souvient pas que tout commence le soir. Ah bon ? Mais c'est une habitude hébraïque, simplement.
Eh bien, restons avec un point d'interrogation pour une petite respiration musicale.
Against your son, oh, his slaves, your country's foes.
nom.
Oui, nous en étions à un suspense insupportable.
Exactement. Voilà. Qu'allons-nous faire donc de cette...
Est-ce que le soir qui commence un jour est une habitude culturelle datée?
Voilà, sachant que notre expérience contredit donc ce que la Bible, le récit biblique nous dit. Donc pour nous, le réveil commence le matin avec la lumière du jour et voilà. Le café qui nous met en mouvement.
Eh bien, je dis que ça n'est pas culturel, c'est anthropologique. Et on voit que la révélation se sert évidemment d'une langue et même des habitudes mentales d'un peuple, mais là, c'est inspiré. Pourquoi? Parce que la vie humaine commence effectivement un soir. Comment? Mais c'est qu'avant, le matin, vous voyez, lorsqu'on se lève, c'est connoté du moment de la naissance, notre premier jour. Et effectivement, la naissance est vue comme une mise au jour, donc comme un matin. Mais avant de naître, il a fallu être conçu et engendré. C'est-à-dire qu'il y a un enfantement qui dure 9 mois. Eh bien, c'est une longue nuit. Parce que pour l'embryon qui est dans le sein de sa mère, il a bien commencé dans la nuit, de la première division cellulaire, si vous voulez, jusqu'au moment de sa naissance, c'est une longue nuit. Donc tout commence un soir. C'est extrêmement profond au niveau anthropologique. Et nous, si nous faisons commencer les journées le matin, c'est que nous avons tendance à oublier que nous ne commençons pas par notre naissance, mais que nous commençons par notre conception. C'est un problème grave. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Parce qu'on va se poser le problème, est-ce que l'homme existe à partir du moment de sa naissance? Et avant, ça ne serait pas un homme, donc à la rigueur, on peut le tuer. Mais s'il commence un soir, ben alors, il n'y a aucune discussion possible, c'est déjà un homme qui est conçu. Donc on ne peut pas le tuer.
Est-ce que cela nous renvoie aussi à ce que vous nous disiez sur la ténèbre, à savoir qu'il y a bien une première information du côté de Dieu qui ne nous est pas connaissable, donc dans une certaine nuit, et qui va se révéler peu à peu. Voilà. Donc la nuit de la conception peut être aussi celle de l'enfantement spirituel, ou en tout cas...
Alors, ça c'est une image qu'on peut développer, effectivement. Alors, le soir, c'est le moment de la conception. Alors, nous, comme on est des gens fatigués, et qui allons vers la mort, comme dit Heidegger, zum Tod, mais c'est affreux. Nous n'allons pas vers la mort, nous allons vers la vie. Nous nous identifions inconsciemment, fantasmatiquement, le soir, au déclin, au sommeil et à la mort. Or, pas du tout. Dans l'Écriture sainte, tout ce qui concerne le soir concerne une conception. Donc le commencement de la vie. Le don de la vie. Et après, ça se développe, évidemment. Et donc, on doit vivre chaque soir comme le moment sublime de replonger dans l'acte qui nous conçoit. Bien sûr que nous évoluons, bien sûr que nous capitalisons les jours, oui, mais il y a cette plongée dans notre propre conception qui est un don divin. Il faut se recevoir comme venant de Dieu. Si nous commençons la journée le matin, c'est nous qui voulons être maîtres et possesseurs de la nature. Oui, mais ça c'est Descartes, c'est pas la Bible.
C'est bien connu d'ailleurs dans la Bible que beaucoup d'inspiration, d'ailleurs nous l'avons vu lorsque nous avons développé l'inspiration prophétique, beaucoup d'inspiration se déroule de nuit. Et d'ailleurs nous avons cet exemple de Nicodème qui visitera aussi Jésus de nuit pour un enseignement peut-être spécifique, je ne sais pas.
Pour être conçu sur la naissance.
Et oui, ça parle de naissance ce texte.
Ça parle de naissance et c'est de nuit.
Il vous faut renaître.
Il vous faut renaître, mais avant de renaître, il faut être conçu.
Conçu, voilà.
Et c'est de nuit. Donc il vient recevoir un enseignement pour apprendre à renaître, donc à naître correctement, en quelque sorte. Parce qu'il se pourrait que du brouillage intervienne. Et ça, on le verra avec le récit de la chute. Donc tout se tient, vous voyez.
Donc le soir est connoté, donc, comme vous venez de nous le dire, du côté de la conception, et le matin serait du côté de la naissance.
Voilà. Ah, bien sûr. Et alors, la conception ne nous appartient pas. On ne s'auto-conçoit pas. Il a fallu des parents. Et puis même si c'est des scientifiques, maintenant, avec des pipettes, ça ne change rien au problème. Il faut que quelqu'un d'autre nous conçoive. Et quand on y réfléchit, on peut remonter les généalogies, on arrivera nécessairement à ce récit, c'est que la première conception de l'homme, c'est une conception divine. Donc le soir, nous revivons ces choses-là, très profondément, très inconsciemment bien sûr, hein, ou avec beaucoup de rejet. Hein. Et à la naissance, nous nous prenons en main, effectivement. Mais on peut pas se prendre en main n'importe comment. Parce qu'il y a une donnée antérieure. Et alors, on ne le sait que trop. Parfois, les données antérieures, qui sont notre héritage, viennent se manifester le jour, et on se demande d'où ça nous vient. Mais ça nous vient de notre conception. Et ce qui nous vient le plus profondément, c'est pas nos héritages psycho-ADN, biologiques, parce que ça existe, bien sûr, très important, mais il y a aussi un héritage divin dans l'homme. Alors, voyez, ces choses-là ont été comprises au moins implicitement par nos pères. Parce que même les Romains, dont nous héritons beaucoup en Occident, ont conservé la journée liturgique quand ils sont devenus chrétiens. Ils ont conservé la journée liturgique commençant le soir.
Les vêpres.
Les vêpres, vespères, ça veut dire le soir, tout simplement. Hein, il y a un office.
Les premières vêpres, comme l'on dit, pour introduire pour les grandes liturgie fêtes. Du dimanche. Oui.
Bien sûr, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est le véritable commencement. La conception se fait de nuit. La nuit de Pâques, c'est la nuit qu'il faut célébrer.
Hein. Donc, et la résurrection qui nous célébrons
au petit
matin
bien sûr.
Qui est bien une naissance.
Qui est une naissance à la vie éternelle pour le corps.
C'est très cohérent.
Le corps reconçu et restauré en Jésus, parce qu'il a pris sur lui le péché du monde. Hein? Parce que son corps conçu du Saint-Esprit, lui, est parfait. Il n'a pas besoin de renaître. Oui, mais le corps qu'il vit sur les routes de Nazareth, avec lequel il enseigne, c'est un corps souffrant et qui prend sur lui le péché du monde. C'est pas son péché à lui, mais il le prend sur lui. Hein? Il prend notre fardeau et il le liquide dans sa mort et sa résurrection. Voilà. Donc là, c'est les états du corps du Christ qui sont en filigrane, vous voyez. Donc, mais comprendre la structure du jour nous met presque immédiatement en contact avec une dramaturgie qui va se passer dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est pas n'importe quoi. Et même son enseignement. Donc on voit qu'il y aura un enseignement de nuit pour réformer nos conceptions.
D'accord.
Et il y a un enseignement de jour pour réformer nos actes.
D'accord.
Bien sûr, hein, parce que c'est le jour qu'on agit, c'est pas la nuit. Mais la nuit, on conçoit. Et comme vous le rappeliez, la plupart des révélations dans la Bible se trouvent la nuit, en songe. Le songe de Jacob, ou même Abraham déjà, c'est de nuit. Hein. Il doit sortir pour regarder le nombre d'étoiles, etc. C'est bien de nuit.
Voilà, exception la Vierge Marie qui a plutôt une vision de jour.
Alors, nous parlons.
Nous sommes devant un cas d'exception.
Oui, c'est vraiment un cas d'exception. Nous y reviendrons. Donc, nous avons maintenant tout pour comprendre ce que propose ce premier jour, qui est une distinction, et que c'est un acte divin qui constitue l'homme, qu'il doit revivre incessamment, c'est de se remettre en contact avec ce qu'est une différence, une distinction. Pourquoi ? Parce que c'est la structure même de la connaissance. Et voyez bien que cette séparation des ténèbres et de la nuit, c'est pas pour dire que la ténèbre est mauvaise. Même si on dit que la lumière est bonne. Mais pourquoi ? Parce que c'est un enseignement pour nous. Pourquoi on nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne ? Qu'est-ce qui lui prend, si j'ose dire ? C'est que pour nous, la lumière dont il s'agit ici, c'est la parole intelligente, ou l'intelligence parole en nous. Et mais nous, qui sommes déchus, nous redoutons l'intelligence et nous trouvons qu'elle est mauvaise. Et qu'il faut croire les yeux fermés, surtout, il n'y a rien à comprendre. Ça, c'est une erreur de fond, et qui est contraire d'ailleurs à la doctrine de l'Église. Parce que l'Église dit que la foi, qui n'est pas du tout de fermer les yeux pour croire n'importe quoi, c'est l'assentiment de l'intelligence à la vérité révélée. Bien sûr, il faut qu'il y ait une donnée, et c'est de nuit, mais il faut que l'intelligence s'éveille pour dire « ah oui ». Et c'est ce consentement libre à la vérité qui fait la foi.
disons, cette lumière était formante avant la chute, après la chute, comme vous le disiez, Jésus réforme. Voilà, notre, justement, nos difficultés à être conçus et à agir de manière inspirée.
Alors, nous pouvons remarquer, pour terminer, que la structure du jour enseigne donc à la fois une structure de la création, puisqu'il y a de la loi, il y a de l'aléatoire, il y a un mélange des deux dans les choses, et il y a des choses qui ne relèvent pas du tout de ça, à savoir l'intelligence humaine, par exemple, il y a bien d'autres choses. Ça, c'est une structure de la création. Mais nous venons de voir qu'il s'agit aussi de la connaissance. Et donc, c'est aussi la structure de la connaissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hiatus entre ce qui nous est donné à connaître et notre acte de connaissance. Autrement dit, la connaissance est possible. Vous savez qu'il y a beaucoup de philosophes qui hésitent sur ce problème. Est-ce que notre connaissance n'est pas entièrement illusoire? Eh bien, elle est certainement illusoire quand on se contente de rêver. Mais quand on accueille la structure complète de la création, la connaissance qu'on en a est vraie. Et ça, c'est une chose très importante. C'est qu'il n'y a pas de distance entre la connaissance de l'être, pour parler comme les anciens, et l'acte de connaissance. Autrement dit, une théorie de la connaissance et une théorie des choses qui ne seraient pas identiques est nécessairement fausse. Alors nous avons cette chance, à travers cette révélation, de voir que ça concerne vraiment les problèmes que nous nous posons. Parce que, apparemment, qu'est-ce qui nous garantit que nos façons de connaître nous font connaître réellement le monde? C'est un problème d'épistémologie qui est toujours en suspens, mais qui est réglé dans la révélation. On nous dit, non, avec cette structure, votre acte de connaissance est analogique à ce qui existe. C'est pas identique, bien sûr, parce que c'est à travers des images. Mais lorsque vous découvrez de l'ordre, c'est du vrai ordre. Quand vous découvrez de l'aléatoire, c'est du vrai aléatoire. C'est pas l'ignorance de l'homme. Vous voyez, il y a une définition de l'aléatoire que vous trouvez dans tous les dictionnaires, et même en science. L'aléatoire, c'est ce que l'homme ignore. On peut pas prévoir, voilà. C'est par rapport à l'homme. Non, il y a de l'aléatoire dans le monde, réellement. Des choses qui n'obéissent à aucune loi. Ça, c'est une chose que nous avons du mal à penser. Pourquoi ? Parce que nous avons une idolâtrie fondamentale de l'ordre. Nous voudrions que tout obéisse aux lois, que tout soit prévisible. Ça a donné le rationalisme, le déterminisme et tout, et un désespoir profond. En fait, il y a beaucoup plus de liberté dans la création qu'on imagine.
Ben, c'est toute la vertu de l'aléatoire, c'est de nous laisser un champ d'action possible. Alors bien sûr, pas n'importe lequel, dans la mesure où il y a une lumière qui nous est proposée, une inspiration. Mais l'homme peut agir librement.
Puisque la Terre est tohu vabohu, pas du tout désordre, ça peut nous paraître un désordre, bien sûr, c'est-à-dire un mélange d'ordre et de non-ordre. Eh bien, précisément, puisque c'est un mélange, nous, on peut séparer, si on sait séparer, faire des distinctions. Donc, on va pouvoir accroître l'ordre d'un système ou le faire décroître. Ce que nous faisons, en nous réveillant, nous accroissons l'ordre qu'il y a dans notre cerveau, en tout cas, en principe, et la nuit, nous faisons décroître l'ordre. Et ça permet des réarrangements, la digestion de tout ce qu'on a appris, etc. Bon. Mais la même chose, dans nos actes, nous pouvons ordonner le monde. Quand on cultive un champ, eh bien, on fait des sillons, c'est mettre de l'ordre dans la terre où il n'y en a pas. Et mettre les graines, au lieu de les mettre n'importe comment, on les met selon les sillons, et ça les répartit mieux, et il y a de meilleurs rendements, etc. Et donc, l'homme a la possibilité d'agir dès qu'il a saisi cela. Donc, il peut accroître l'ordre du monde, mais il y a une limite. Mais aussi, il peut la faire décroître. Il peut brouiller les choses, remalaxer les choses. Et donc, tout l'agir humain est contenu en germe, si j'ose dire, dans cette révélation de la structure de la création. Eh bien, si une intelligence et une volonté libre qui ne relève ni de l'ordre ni de l'aléatoire, justement. C'est là où c'est libre. Parce que ce qui est aléatoire, c'est pas libre. Ça arrive par hasard, bon. Et ce qui est légal, c'est pas libre. Donc, mais si notre intelligence est justement l'instrument de notre liberté, alors à ce moment-là, nous n'avons pas de pouvoir sur les lois. Ça, on doit les étudier. Mais les connaissant, on va pouvoir agir dans le monde. Donc, le monde est immédiatement fait pour qu'un être d'intelligence et de volonté puisse le transformer. Voilà. Et c'est ce qui va nous être donné au Jardin d'Éden, où on y arrivera peut-être un jour. L'homme est placé pour travailler et contempler.
Tout à fait.
Et c'est pas après la chute, c'est avant la chute. Le travail, donc, est une possibilité et une capacité qui nous est donnée par la structure même de la création.
Écoutons Jean-François un second extrait de cet oratorio d'Händel. Jean-François, nous abordons la dernière partie de notre quatrième émission. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu ? Donc, nous avons décrit le jour comme un jour cyclique. Nous voyons un petit peu le déroulement de ces journées. Donc, nous avons parlé de conception, de naissance, et donc qui était associé au soir et au matin. Alors, est-ce que l'homme, finalement, est piégé dans ce cycle ? Est-ce que ce cycle, finalement, il le vit simplement ? Et puis, quel lien peut-il faire, en tout cas, entre cet univers cyclique qui est celui que nous connaissons ici-bas, et puis ce Dieu donc qui l'a créé ? Et est-ce que la nature humaine dépend uniquement de la temporalité de notre espace, celui que nous connaissons ? Voilà, ou est-ce qu'il s'agit d'une autre naissance, comme nous l'avons évoqué avec la résurrection du Christ ? Alors bon, on va un petit peu vite, mais au moins d'avoir un peu quelques idées sur cette...
Oui, vous avez raison. Même si on y revient de façon plus approfondie un peu plus tard, c'est bien d'avoir déjà en perspective que le cycle n'est pas unique au sens de la vie. Il est unique dans le sens de la création. Parce que nous allons découvrir ensuite, c'est pas dans ces premiers versets, encore que ça y est implicite aussi, puisque Dieu parle, il est vivant. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on rencontre dans ce que Dieu dit de lui-même dans l'Écriture sainte. « Je suis le vivant ». Ani el Chai.
Et puisque vous avez dit tout à l'heure aussi sur le soir qui pour nous est connoté de mort, alors que de fait Jésus dira aussi dans l'évangile que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants.
Voilà.
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac,
peut pas être
de Jacob.
Le Dieu des morts parce que la mort n'a pas lieu d'être dans ce schéma. Alors on verra comment ça s'introduit, mais c'est un véritable scandale. Hein. Et Alors, donc il y a un problème, parce que la création, donc, va être entièrement décrite dans le cycle des six jours. Mais tout le monde sait, justement, grâce à la liturgie, qu'il y a un septième jour. J'en profite pour dire que la semaine de sept jours est une invention religieuse. C'est une invention mosaïque et qui s'est répandue dans le monde entier. Bon, très bien. Mais, et d'ailleurs, c'était encore très bien ressenti du temps de nos pères révolutionnaires, parce que en 1793, ils ont voulu changer le calendrier, faire disparaître la semaine pour mettre des périodes de 10 jours, un peu comme faisaient les Égyptiens, les décadis. Bon, ça n'a pas marché parce que les gens n'étaient pas contents de se reposer une fois tous les 10 jours plutôt qu'une fois tous les 7. Hein? Donc c'est pas très glorieux tout ça. Mais pourquoi les révolutionnaires voulaient enlever la semaine? Mais évidemment pour faire disparaître le christianisme. Voilà. Et disparaître la religion. Ça faisait disparaître le judaïsme avec. Bon.
Il faut quand même rappeler, donc, mais on l'a dit déjà dans, tout à l'heure en début d'émission, donc ce septième jour, il n'y a ni soir ni matin.
Alors, voilà, nous important. Y arrivons. Le septième jour a cette spécificité, c'est que on nous dit que Dieu s'y repose, du moins dans les traductions habituelles. Parce qu'en fait, le verbe ne veut pas dire se reposer, mais cesser, arrêter. Dieu arrêta. Il arrête à quoi? De créer. Bon. Alors, pour nous, arrêter de créer, comme on confond ça avec un travail, arrêter de travailler, c'est se reposer. Voilà. Et alors, du coup, Dieu se repose. Bon. Mais, ça, c'est un peu un anthropomorphisme. Bien sûr qu'il y a certains anthropomorphismes qui sont utiles, puisqu'ils sont à considérer comme des images dont on doit comprendre le sens. Hein? La même chose. Le jour et la nuit, en fait, c'est pour nous. Ce sont des anthropomorphismes aussi. Hein? Qui c'est qui voit ça? Ben, nous. Hein? Mais, alors nous on croit que c'est très objectif et tout. Alors, le septième jour, justement à cette spécificité, c'est qu'on dit que Dieu cessa tout son ouvrage. Donc il ne fait rien. Parce qu'on nous le présente comme faisant quelque chose dans les six jours.
Il ne crée plus.
Et il ne crée plus. C'est embêtant.
Est-ce possible?
Est-ce possible? Est-ce possible? Parce que on verra dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, Jésus dire « Moi et mon Père, nous travaillons toujours. » Ah bon, y aurait-il une contradiction? Hein? Non. Mais il faut avoir un peu de temps pour l'expliquer. Prenons le septième jour. Pourquoi on nous raconte un jour qui n'a pas de terme? Alors, je reprends la semaine. La semaine, on peut dire, oui, mais c'est la division du cycle lunaire, ce qui est faux. C'est pas tout à fait ça. Le cycle lunaire, c'est 29 jours et quelque chose. Donc, c'est pas un multiple de 7. Et ça pose beaucoup de problèmes pour les calendriers, oui. Hein? Donc, 7 jours, c'est entièrement religieux. Ça a un sens spirituel. Alors, après, on essaie de faire coller avec les cycles de la Lune, mais justement, ça colle pas bien. C'est entièrement religieux, pourquoi? Mais voyez bien que c'est une révélation sur ce qu'est l'homme et comment l'homme doit se concevoir lui-même, donc concevoir son rapport à la divinité. Et on ne peut pas concevoir un homme qui n'ait pas un rapport à la divinité. Lui, il peut l'oublier individuellement, mais réellement c'est impossible. Le rapport à la divinité, pour nous, qui sommes dans ce monde sensible et même intelligible, on a vu que toute la création et tout l'acte de connaissance est révélé et compris dans les six jours, dans ce développement, à travers une structure qui nous est donnée dès le départ sur l'ordre, sur les lois, le hasard, etc. Alors, est-ce que tout l'homme est compris, toute la vie humaine est comprise dans cet acte de création? Eh bien, la réponse est non. Alors, là, il faut écouter, il faut trembler. Pourquoi? Parce que si on nous raconte que Dieu ne crée pas le septième jour, ça institue un hiatus dans la suite des jours. Mais la terre continue à tourner. Il n'y a pas d'hiatus. Donc, comment signifier ce jour où Dieu ne fait rien. On ne peut pas décréer le monde. On ne peut pas l'empêcher de tourner. Parce que ça, c'est vraiment, ça relève de l'ordre. Oui, mais il y a un acte de liberté que nous pouvons produire qui va être un acte rituel. Et donc, ça va, mais on va trop vite en quelque sorte, mais peu importe, on le répétera. C'est un acte rituel qui prend une chose, en nie l'existence, pour signifier autre chose encore. Donc c'est une seconde façon de signifier. Pendant 6 jours, on prend des choses qu'on voit pour dire, oui, mais qu'est-ce que par analogie ça nous fait comprendre? Les cieux, ça nous fait comprendre de l'ordre, d'accord. Le jour et la nuit, ça nous fait comprendre les distinctions, etc. Tout ce qu'on a dit, d'accord. Maintenant, on prend la forme du jour, en quelque sorte, et on dit, non, elle n'existe plus. Il n'y a plus de soir et de matin. Autrement dit, ça nous dit, il y a une sortie du cycle. Il y a une sortie de l'acte de création. Parce que sinon, c'est pas la peine de le raconter. Autrement dit, nous ne sommes pas destinés à rester dans la création, mais à participer à la vie de celui qui nous a créés, qui est un créé.
Est-ce que cela pourrait dire que ce jour unique, qui peut être aussi le septième jour, peut être inscrit dans ce jour unique, c'est-à-dire que le cycle et le hors-cycle que pourrait signifier un jour en achèvement, voilà, nous conduirait au-delà de la conception. Ce que j'essaye d'exprimer, c'est que finalement, déjà dans le cycle, est prévue une sortie du cycle. Donc dans ce jour unique, il y a, qu'on pourrait, alors peut-être que j'extrapole le texte, mais qu'on pourrait regarder comme un jour plutôt lié à la conception. Est-ce qu'il y a donc dans ce jour déjà une matrice de laquelle peut sortir un hors-cycle, un hors-jour peut-être, et qui serait là plutôt du côté de la naissance?
Alors, la question se pose. Et la façon de la poser indique quelque chose de la conception que nous avons des choses. Justement, toute l'affaire cyclique des 6 jours, c'est la matrice. Et il s'agit de sortir de la matrice. Il ne peut rien avoir dans la matrice qui nous fasse sortir de la matrice. Et d'ailleurs, c'est le drame, et même la tragédie pour certains, de croire que nous sommes enfermés dans la matrice. Il y a des films pour l'expliquer aux gens, à travers des images aussi d'ailleurs.
Matrix.
Non, justement, qui s'appelle Matrix. C'est un film tout à fait remarquable, hein, qui dit, quel effort que vous fassiez, de toute façon, vous ne pouvez pas en sortir.
Coincé dans le cycle.
Oui. Alors ça, c'est tragique. Dans l'écriture, les choses ne sont jamais tragiques, elles sont dramatiques. C'est-à-dire qu'on peut en sortir, mais il y a des accidents au passage. Alors, le hors-cycle, justement, c'est ce qui est donné et qui ne peut pas être donné par le cycle. J'explique. Toute la création va nous être donnée dans la figure des 6 jours. Mais, puisqu'il s'agit de la création de l'homme, puisqu'il s'agit de sa connaissance, et donc et de son sommeil, de sa conception, de sa prise en main, de son destin global, il y a une chose que sans révélation, on ne peut absolument pas comprendre. C'est que ce qui nous est donné à vivre, c'est ce monde-ci. Ça, c'est une évidence. Mais qu'il pourrait nous être donné à vivre autre chose, donc qui est totalement inimaginable pour nous, puisque justement, toutes les images, elles sont dans les 6 jours. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire des images. Ça n'est pas une conception. La conception, elle est dans le cycle. Ça n'est pas une naissance, elle est dans le cycle. C'est une sortie de l'acte créé. Alors, on nous montre Dieu créateur, les 6 jours. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre le 7e jour? Ben, Dieu non créateur. Ah bon? Et voyez que nous ne pouvons avoir un rapport matériel dans notre corps, psychique et spirituel, a priori, qu'un rapport de créature à créateur. Ça, c'est dans les 6 jours. C'est un cadeau absolument merveilleux. On va le développer. On va voir comment toutes les étapes forment l'homme. Eh bien, il y a une sortie du cycle possible, mais qui doit être instituée par l'homme, à travers le rituel qu'il va devoir instituer, qui est contraire à tout ce qu'il peut voir. C'est contraire au bon sens, et à un jour qui n'est pas un jour. Alors, comment on va le signifier? Je le dis tout de suite. On va signifier ce 7e jour par on interdit un jour d'être un jour. Qu'est-ce qui se passe pour un jour chez nous? Pendant un jour, on dort et on travaille. Donc, qu'est-ce qu'on peut supprimer là-dedans? Pas le sommeil, parce que ça, on est obligé. Mais le travail, oui. Donc, on va interdire de travailler le 7e jour pour signifier ce qu'il est. Mais si vous interdisez le travail, c'est pas la permission de se reposer, c'est l'interdit. Ah bon? Ça, c'est entièrement rituel, c'est entièrement religieux. L'interdit du travail, ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser votre corps. Il faudrait savoir ce que c'est que le corps humain d'abord. Pour ça, il nous faut les 6 jours. Mais ça donne une bonne bande-annonce pour les autres jours. Il faut absolument les écouter. L'interdit sur le corps, mais ça veut dire qu'on porte rituellement, parce que réellement c'est impossible en ce monde-ci. Ah, il faut pas travailler, d'accord. Oui, mais manger, respirer et tout, marcher un peu. Alors on dit, oh, pas trop. Hein. Oui, mais ça, c'est de la jurisprudence. Hein. Parce que on essaye de faire dans le monde ce qui est impossible à y faire. Ça veut dire que le corps a une autre destinée que ce monde-ci. Et donc le 7e jour est une prophétie de la connaissance de Dieu en tant que Dieu, et non pas en tant que créateur, et que le corps humain est fait pour la résurrection.
Voilà, notre corps de résurrection, et qui nous renvoie donc à la transcendance de Dieu.
Qui nous renvoie à la transcendance de Dieu, dont nous ne pouvons rien dire, a priori.
Merci beaucoup Jean-François, tout cela est très passionnant, nous poursuivrons lors de notre prochaine émission. À bientôt.
À bientôt Père. Yeah.